Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Bienvenue dans cette première édition de Dimanche Politique de l'année. Comme la vie, la politique est pleine de surprises et d'aléas, mais il y a, en 2020, une certitude. Les élections municipales qui auront lieu en mars dans 34 970 communes. Scrutin de presque mi-mandat pour le président de la République. Des municipales dont on va beaucoup parler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Les Français éliront plus de 500 000 conseillers municipaux qui désigneront ensuite les maires, leurs enjeux, leurs limites de ces municipales, c'est maintenant à comprendre sur RFI, avec deux fins analystes qui font régulièrement la qualité de cette émission. Bonsoir Frédéric Michaud.
Bonsoir.
Directeur des études du département Opinion, d'Opinionway, vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé La prophétie électorale, les sondages et le vote aux éditions du CERF. Bonsoir Thierry Vedel.
Bonsoir.
Chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Ils y pensent tous en se rasant le matin et elles en rêvent en se maquillant le matin. Être élu en mars à la mairie, c'est le rendez-vous politique de ce début d'année. Le politologue Olivier Roucan, qui intervient lui aussi régulièrement dans Dimanche Politique, spécialiste des collectivités locales, parle de ce scrutin comme des municipales de tous les possibles. Ces dernières semaines, les conciliabules ont été très nombreux pour savoir qui se présenterait ou sous quelle étiquette. Il faudra aussi penser à proposer un programme. Avant de rentrer dans le détail, qu'attendent les Français de ce scrutin? Est-ce qu'ils aiment ces municipales? Est-ce qu'ils vont voter plus que pour un autre scrutin? Frédéric Michaud.
Oui, et les Français aiment les municipales. Quand on regarde l'historique des résultats électoraux des scrutins précédents, on voit une mobilisation assez forte pour ce scrutin, ce qui est moins le cas pour évidemment pour d'autres types d'élections comme les élections législatives ou même les élections européennes. On a une mobilisation très très forte des électeurs parce que c'est un scrutin qui est très fortement incarné et puis c'est un scrutin de proximité. Les enjeux paraissent très concrets, très tangible, et ça provoque une mobilisation de la part des électeurs.
Voilà, du concret, on voit directement quelle peut être l'efficacité du politique qu'on va élire. N'est-ce pas Thierry Vedel?
Oui, Frédéric Michaud a tout dit, l'efficacité ou l'inefficacité des politiques, hein, puisque c'est souvent ce qu'on reproche actuellement aux politiques, c'est de pas faire bien leur boulot ou de pas comprendre les problèmes des gens. Mais en effet, c'est une élection, enfin, ce sont des élections, les élections municipales qui intéressent un petit peu plus. Et dans le baromètre de confiance politique que notre centre de recherche effectue chaque année, on s'aperçoit qu'en effet, les élus locaux sont beaucoup plus appréciés que les élus nationaux ou les élus au niveau européen.
Ils sont perçus plus honnêtes, comme ayant une plus grande capacité à tenir leurs promesses et puis à avoir bien évidemment une plus grande proximité.
Voilà, c'est la proximité qui joue. Et aussi, donc, il ne faut pas oublier, c'est une élection aussi dans laquelle il peut y avoir des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de clientélisme, qui expliquent aussi ce qui est parfois surprenant pour les observateurs ou les simples citoyens, le fait que des maires qui ont été condamnés aient quand même du succès aux élections municipales.
Il sera intéressant de voir ce qui se passe à Grenoble avec Alain Carré. Réunion, qui avait été condamné pour corruption il y a bien longtemps de cela et qui se représente. Ce qu'on dit là, ça vaut quelles que soient les sensibilités politiques, Frédéric Michaud.
Oui, absolument, ça traverse toutes les sensibilités politiques. Les vertus de la proximité, elles sont nombreuses, hein. D'abord, il y a une forme de contrôle. On voit si l'élu travaille ou pas. On peut vérifier la qualité de son travail. La proximité, c'est aussi le sentiment d'une préoccupation. Le sentiment que l'élu s'intéresse aux préoccupations des citoyens. Et puis, c'est aussi l'élu qu'on sait où trouver en cas de problème.
L'accessibilité,
la disponibilité des élus, c'est tout l'inverse de la déconnexion qu'on reproche aux élus nationaux.
Et avec un sentiment de compétence, puisque 65% des maires sortants ont plus de 60 ans.
Sentiment de compétence, un jugement très positif qui est porté sur le travail accompli par les maires. Hein. Plus de 70% les Français considèrent que ce travail est excellent ou bon. Et ça, évidemment, ça pourra avoir des conséquences sur leur vote aux prochaines élections municipales. Alors évidemment, il y a des variations selon les territoires, mais globalement, on a un jugement qui est très positif sur l'action, sur l'implication, sur l'investissement des maires.
et 80% des élus municipaux sont bénévoles, certains encartés, d'autres pas. Pour ce scrutin 2020 concernant les étiquettes politiques, Thierry Viadel, on a l'impression qu'elles ne seront plus forcément affichées, brandies comme un étendard, un peu comme qui dirait que certains auraient l'appartenance partisane honteuse. Pourquoi ?
Oui, alors tout à l'heure, vous avez rappelé qu'il y avait plus de 34 000 communes. Donc ça, ça explique en partie déjà le fait que les étiquettes ne jouent pas un rôle très important, et notamment dans toutes les petites communes. Hein. Il y a parfois des communes de quelques centaines ou de quelques milliers d'habitants. Donc là, voilà. En général, les étiquettes politiques jouent un rôle surtout dans les grandes villes, dans les scrutins qui ont une importance nationale, évidemment, du type de Paris. Voilà. Et l'autre chose aussi qui voudrait dire, c'est que très souvent aussi, on a des maires qui sont des gens qui s'engagent, qui sont, vous l'avez dit, parfois de façon quasiment bénévole, qui se dévouent pour leur commune, et donc qui sont animés beaucoup plus par l'intérêt général que par quelques attitudes ou orientations politiques ou partisanes que ce soit.
Votre institut de sondage OpinionWay, Frédéric Michaud, s'est penché vous avez, là-dessus. Vous avez des chiffres à nous donner
à Oui, absolument. Quand on interroge les Français et qu'on leur demande s'ils vont accorder de l'importance à différents critères au moment de voter pour les élections municipales, le premier critère, c'est évidemment le programme des candidats. Le deuxième critère, le bilan, hein, ça dit bien quand même cette attention des électeurs à l'action des maires. Ensuite, la personnalité des candidats, l'équation personnelle, c'est un scrutin, je l'ai dit, qui est très investi. Et puis, les étiquettes politiques se classent comme un critère de second rang, 57%, mais tout de même, c'est pas un critère totalement mis de côté par les électeurs. L'étiquette politique, ça joue aussi un rôle d'orientation du choix électoral, et ça varie beaucoup selon le type de commune.
Il y a d'une part les étiquettes partisanes, c'est-à-dire est-ce que le maire, il appartient à un parti ou une organisation politique. Et puis il y a autre chose qui est généralement connue dans chaque commune, même les plus petites, c'est l'orientation politique globale du maire. Et donc on sait s'il est conservateur, modéré ou au contraire très progressiste. Et c'est comme ça, je crois que les gens fonctionnent.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
RFI, Philippe Le Caplain.
Déficit d'implantation locale pour certains, division, étiquette politique nationale carbonisée, les élections municipales du mois de mars s'annoncent à haut risque pour bon nombre de partis, de formations politiques. À moins de 3 mois de l'échéance, aucune ne paraît assurée de tirer son épingle du jeu. La lecture du scrutin au soir du 22 mars sera-t-elle lisible ? Venons-en aux équilibres politiques, aux rapports de force politique. Il y a une disparité dans ce scrutin, messieurs, c'est le fait que dans les grandes communes, il y aura des listes politiques, alors que ce ne sera pas le cas dans les petites mairies. Le Rassemblement national est très présent sur la scène politique nationale, mais pas implanté localement. Est-ce que ça veut dire que c'est perdu d'avance pour Marine Le Pen ?
C'est toujours un scrutin qui est très difficile pour le Rassemblement national, qui a un peu réduit ses ambitions par rapport à 2014, avec un taux de couverture, c'est-à-dire un nombre de listes étiquetées Rassemblement national qui sera inférieur à celui du scrutin précédent, parce qu'ils ont sans doute des difficultés de recrutement. C'est d'ailleurs pas la seule formation qui éprouve ce type de difficultés. Et puis aussi une difficulté à atteindre une majorité dans des communes où souvent les équilibres politiques sont stables.
Thierry Viadel, justement, ce fameux deuxième tour, finalement c'est comme à la présidence, il y a une sorte de plafond de verre qui empêche le Rassemblement national d'exister.
Alors, il faut rappeler d'abord le mode de scrutin pour les élections municipales, hein, alors qui est pas le même suivant la taille des communes, et puis il y a le cas aussi de Paris, Lyon, Marseille, qui ont un statut particulier. Mais pour les villes moyennes ou grandes villes qui sont un petit peu sous le feu des projecteurs, il y a un premier tour. Et alors là, c'est la liste qui a la majorité absolue qui l'emporte, qui gagne tous les sièges. Et ensuite, on a un second tour à la proportionnelle, enfin avec une préférence majoritaire, c'est-à-dire la liste qui arrive en tête gagne la moitié des sièges plus un, d'accord, et ensuite c'est réparti à la proportionnelle. Donc, et ce qui est le plus important, c'est qu'entre les deux tours, il y a une possibilité de faire des fusions de listes à certaines conditions, hein, je rentre pas dans le détail. Donc, ce mode de scrutin, basiquement, il favorise les listes qui sont capables, entre les deux tours, de faire des alliances. Donc ça handicape évidemment le Rassemblement national, qui a beaucoup de difficultés à faire des alliances, ou des listes qui seraient extrémistes à gauche. En revanche, La République En Marche, les listes du centre ou potentiellement du centre, elles ont beaucoup plus de possibilités. Par exemple, des alliances avec les écologistes, des socialistes modérés ou des gens de droite.
Alors venons-en à La République En Marche, le parti présidentiel qui existe à l'Assemblée, mais pas au niveau local. Bah, d'abord pour la simple et bonne raison que le parti n'existait pas encore lorsqu'ont eu lieu les précédentes élections municipales en 2014. Une faible implantation locale, c'est ça le problème aujourd'hui de La République En Marche.
C'est un problème fort pour eux. D'ailleurs, leur objectif, qu'ils reconnaissent volontiers, n'est pas d'obtenir un maximum de municipalités ou de conquérir le pouvoir dans un maximum de villes, mais au contraire, d'avoir le maximum d'élus, puisque ce sont les élus au niveau municipal qui votent aux élections sénatoriales, leur objectif ultime étant donc de transformer l'équilibre au Sénat. La difficulté pour la République En Marche est une difficulté de recrutement, et il y a deux cas de figure. Soit on recrute des candidats qui proviennent d'anciennes formations politiques, des dissidents ou des candidats qui ont choisi de rejoindre La République En Marche. Mais dans ce cas-là, l'argument de nouveauté, de renouvellement du personnel politique, qui est un argument très très fort pour La République En Marche, joue moins au niveau local. Ou bien, deuxième solution dans le recrutement de candidats, on prend des notables, un peu ce qui a été fait.
Et ça, c'est l'ancien monde.
Aux élections législatives, non, des personnes qui viennent de la société civile et qui se présentent pour la première fois avec une difficulté, c'est le manque d'expérience politique. Donc là, on a des vraies difficultés qui sont spécifiques à La République En Marche et à un jeune parti qui cherche à s'implanter au niveau territorial.
La République En Marche qui fait parfois l'impasse dans de nombreuses communes et se contente de soutenir des maires sortant Macron compatibles.
C'est toute la difficulté du parti d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire il y a deux strates, si vous voulez, et on voit qu'il y a parfois des tensions. Il y a tous ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron et son mouvement à l'occasion de l'élection présidentielle, qui eux sont plutôt animés par un désir de renouvellement de la vie politique, qui proviennent aussi de milieux très différents, du milieu politique traditionnel, société civile, beaucoup aussi du milieu de l'entreprise, donc ça introduit une nouvelle culture. Et puis on a tous ceux qui ont rallié Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle, pendant ou après, qui viennent du Parti Socialiste, parfois des mouvements écolos ou également de la droite. Et donc il faut faire la fusion entre ces deux groupes, et c'est pas toujours facile.
Le Sénat donc dominé pour l'instant par les Républicains. Pour LR, il s'agira lors de ces municipales de préserver finalement le maximum des près de 70 villes de plus de 30 000 habitants prises à la gauche en 2014. C'est là son véritable challenge, Thierry Vedel.
Oui, et au travers de ce défi que vous venez d'indiquer, il y a plus profondément quasiment une crise existentielle pour ce mouvement politique. Si vous voulez. Et on l'a bien perçu lors des dernières élections européennes. C'est-à-dire qu'il y a un électorat républicain qui, à l'élection présidentielle de 2017, représentait 20 à 25% de l'électorat. D'accord. Et tout à coup, après l'échec de François Fillon, il s'est évaporé, et en quelque sorte, la grosse difficulté, c'est de retrouver, pour les Républicains, c'est de retrouver cet électorat qui, pour partie, est allé vers Emmanuel Macron, et aux Européennes, ça a bien été le cas, ou qui pourrait être tenté d'aller vers le Rassemblement National. Donc, en effet, il y a un véritable enjeu pour les Républicains.
Les écologistes, convaincus que leur heure est enfin venue, après avoir été une force d'appoint au Parti Socialiste, ils veulent enchaîner finalement un deuxième scrutin positif après les élections européennes, où ils avaient fait très fort, 13,5% des voix, c'était en mai de l'année dernière.
Absolument, mais on sait aussi que le scrutin européen, qui est un scrutin très spécifique, est très favorable à Europe, écologie, les Verts. Quand on regarde quels sont les enjeux auxquels les électeurs prêteront le plus attention, on a des enjeux classiques. Les impôts, la fiscalité, question de sécurité, question de santé, c'est toujours très très fort, on le voit en ce moment à travers la crise des urgences ou de l'hôpital. L'environnement se classe à un niveau très élevé. Et donc ça, c'est évidemment un effet de contexte, de conjoncture qui est très favorable à Europe Écologie Les Verts, mais ils se heurtent eux aussi à des difficultés d'implantation, même si elles sont moins fortes que celle de La République En Marche parce qu'ils sont présents depuis plus longtemps.
Plus largement, Thierry Vedel, est-ce que la préoccupation écologique est de plus en plus prenante, quels que soient les scrutins? Là, on parle des municipales avec Frédéric Michaud, on l'a vu aux européennes, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une donnée majeure dans le choix d'un électeur?
C'est une des données majeures. N'oublions pas que si on parle de la fin du monde, il y a également, suivant la formule, la fin du mois qui préoccupe beaucoup les Français. Et donc, toutes les questions de chômage, niveau de vie restent aussi très, très importantes. Sauf que c'est vrai, au niveau municipal, on a l'impression plutôt qu'on peut être touché par des questions qui touchent à l'écologie, à l'environnement. Par exemple, la question des déchets, la question de la distribution de l'eau. Donc, c'est en effet un terrain privilégié pour ce type de questions.
Autre chose concernant ce scrutin municipal, c'est le fait que les listes doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir et être paritaires, hommes-femmes, alors que seulement 17% des maires sont des femmes. Ça peut poser un problème de recrutement pour constituer une liste, Frédéric Michaud?
Oui, ça peut poser un problème de recrutement qui est exacerbé dans le contexte actuel, qui est un contexte d'opposition et même de rejet de la politique, et pas seulement des politiques, mais de la politique, avec par conséquent un engagement dans l'action politique qui est de plus en plus dévalorisé. Et donc c'est une difficulté qui est renforcée lorsqu'il s'agit de constituer des listes paritaires, d'ailleurs pas seulement avec la parité homme-femme, mais aussi des listes qui comprennent des jeunes et pas uniquement des seniors, des actifs et pas uniquement des inactifs.
Venons-en à la traditionnelle question de la portée nationale du scrutin, dans la mesure où il interviendra après le mécontentement sur les retraites et au pivot du quinquennat qui est maintenant entré dans son acte 2. Est-ce qu'il y aura, Thierry Vedel, une lecture forcément nationale? Parce que on vient de dire que c'est un scrutin national, forcément, très souvent apolitique, etc., etc.
Inévitablement. Et ça, on peut le faire d'une façon assez simple, c'est-à-dire en comparant par rapport aux précédentes élections municipales. Normalement, c'est ce qu'on fait. Sauf que là, il y a un cas de figure un peu particulier. On a une formation nouvelle. Donc, l'évolution des rapports de force sera un petit peu plus compliquée. Mais c'est vrai qu'on va toujours essayer nécessairement de voir comment les rapports de force nationaux se jouent dans les scrutins locaux. Sauf que souvent, ce n'est pas le cas. Et prenons une ville comme, par exemple, Paris. Je suis pas du tout sûr que les résultats que nous allons voir à Paris correspondent à des tendances nationales réelles, ce qui au passage montre aussi que chaque ville est parfois un petit peu particulière et a une sociologie très précise qui ne ressemble pas forcément à celle de toute la France.
Frédéric Michaud, des municipales, au pivot du quinquennat, forcément ce sera à regarder de très près.
Oui, absolument, au-delà de la diversité des scrutins locaux, les élections municipales sont le cas idéal typique d'un scrutin intermédiaire. Et par conséquent, tous les observateurs regarderont les résultats de La République En Marche. Est-ce qu'elle parvient à s'implanter ou pas? Est-ce qu'elle prolonge son développement ou pas? Les résultats des Républicains, est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce que les élections européennes n'auront été qu'un trou d'air et ce scrutin des élections municipales une base pour rebondir? Ou au contraire, est-ce que l'hémorragie de son électorat va se poursuivre? Même chose pour le Rassemblement national. Est-ce que la dynamique qu'il connaît depuis plusieurs années va s'accroître? Est-ce que la France insoumise et les formations de gauche vont retrouver de l'oxygène? Voilà, il y a toute une série d'éléments de conclusions qui pourront être tirées au niveau national de la multiplicité des scrutins locaux.
Merci pour ces commentaires, Frédéric Michaud, directeur des études du département Opinion d'Opinionway et auteur d'un livre aux éditions du CERF qui s'appelle « La prophétie électorale, les sondages et le vote ». Merci à vous, Thierry Vedel, chercheur au CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po. C'était le premier dimanche politique de 2020 sur RFI. Bonne année à tous.
Géopolitique.